With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Salut, c'est Yannick Daron et j'ai été kidnappé par toute l'équipe de Capture Mag pour vous dire qu'afin de fêter les 10 ans du site, ils ont décidé de sortir un MOOC, je déteste ce nom puisque c'est la contraction de magazine et de book, mais un MOOC dans lequel j'ai écrit et que vous pouvez précommander sur le site de Kiss Kiss Bang Bang. Ça va être un bouquin assez génial, donc je vous conseille vraiment de le faire. Allez, à plus.
Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Yannick Dahan.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast. Je suis Stéphane Moïsakis et aujourd'hui on va parler de réappropriation culturelle. Voilà, c'est pour ça que je suis avec le grand spécialiste de la réappropriation. C'est pas facile à dire. Hein.
La réappropriation culturelle.
Voilà, Yannick Dahan.
Voilà.
Salut Yannick.
Bonjour.
Voilà. Donc, grand spécialiste, vous avez, t'as pas amené tes lunettes, t'as pas pris ta pipe pour parler de tout ça. Pourquoi réappropriation culturelle? Parce qu'on va parler de American Ninja, et là, je crois que tout est dans le titre. Hein?
Tout est dit.
À un moment donné, on s'est dit, faut arrêter de tourner autour du pot, quand même, hein.
Pourquoi?
C'est-à-dire, bah, parce qu'on fait plein d'épisodes de stéroïdes, on parle de plein de trucs, en fait, qui ont
mais presque rien à voir avec fondamentaux. On voilà, revient pas ça. Aux fondamentaux, quoi.
Voilà. Et les fondamentaux, c'est...
American Ninja.
La canon. Sam Fistenberg, quand même, tu vois, on devrait lui dresser une
pas
statue quand même.
Sam Fistenberg, mais les producteurs plutôt.
Mais Naem Golan et Yoram Globus.
Tout à fait.
Alors American Ninja 1985.
Ouais.
L'avènement, alors peut-être pas l'avènement tout à fait du ninja parce qu'il y avait quand même quelques films avant,
oui,
hein,
oui.
Grâce à, notamment à Mémé Yo-Yo.
Oui, t'avais des films de ninja mais avec Shoko Sugi. Donc c'était,
oui.
C'était pas véritablement un American Ninja.
Ah bah non, mais c'était en Amérique.
Oui,
voilà, c'est ça. Enfin, certains quoi. T'avais aussi Franco Nero.
D'ailleurs, oui, c'est vrai. Ouais. Et tu sais qu'ils ont choisi de faire American Ninja avec un mec parce que le public visiblement n'avait pas du tout kiffé que dans Ninja 3, qui était donc le troisième avec Shoko Sugi, ça soit une meuf qui joue le rôle.
Lucinda Dinky. Mais alors le truc c'est que American, tu l'as vu Ninja 3 Domination?
Oh, je l'ai vu mais il y a
c'est
tellement
film,
longtemps.
C'est un film de malade, hein. Bon, parce que American Ninja, on va en parler là, c'est un film presque normal, hein. Je veux dire, dans la canon, hein, je veux dire, tu vois.
C'est normal.
Ah, non mais de merde dans la canon, on va dire,
ah,
si
oui,
tu veux.
Sûr.
Mais Ninja 3, c'est quand même la rencontre entre les films de ninja,
ouais.
L'exorciste, parce qu'elle se fait posséder par un esprit de ninja.
Il faut que je le revoie.
Et Flashdance. Parce qu'en fait, elle fait de la voilà, c'est de l'aérobic et tout, quoi. Et c'est hallucinant, quoi. Bon, alors, arrête de boire ton café, Yannick, voilà. Ce que tu vas faire pour commencer, c'est que tu vas nous pitcher.
Ah non.
Alors ça, c'est magnifique. Tu vas nous pitcher American Ninja parce que, donc, on l'a revu, évidemment,
hein, pour les besoins de ce podcast. Ouais, ça faisait longtemps, hein.
Voilà,
ça,
moi
ça,
aussi.
Ça m'a fait plaisir.
Ça m'a fait un choc.
Ça m'a fait plaisir. Je connais le film, je connais les limites. Je me disais, est-ce que je vais trouver ça, mais irregardable aujourd'hui? Non. J'ai trouvé ça très sympathique à regarder une nouvelle fois. Donc ça me va très bien. Alors le pitch d'American Ninja,
bon courage.
Ouais, bon courage, c'est vrai. T'as un mec qui s'appelle Joe, qui travaille dans une base militaire lors d'un pays.
Dans Joe Armstrong.
Joe Armstrong, mais il le dit jamais dans le film.
Non, mais c'est, il a son.
Ouais, il a son truc marqué, mais quand on lui demande comment il s'appelle.
Comme toi, par exemple, quand on demande comment tu t'appelles, t'appelles Ballard, quoi.
Voilà, ça, tu t'appelles Ballard.
Ouais, ouais.
Et donc, ouais, alors apparemment, je crois que c'est pas dit, hein, mais ça se passe dans un pays, d'Asie du Sud-Est, une base militaire.
C'est tourné en Philippines.
Ou c'est tourné en Philippines, mais le pays n'est jamais dit. Et dans ce truc-là, il y a un truc qui est pas très clair.
Il y a rien qui est très clair, en fait.
Il y a une espèce de colonne de militaires américains qui partent en trip faire quelque chose, là, transporter des choses un petit peu tendancieuses dans leur camion. Et en même temps, ils escortent la fille du commandant américain de la base, puis ils se font attaquer par des types, et notre ami Joe, pour sauver la jante demoiselle, va péter la gueule à la moitié de ces mecs-là, ce qui va créer d'un côté des problèmes dans la base, puisque tout le monde va dire ah ouais, alors tu penses qu'à ta gueule, il y a eu 3 de nos collègues qui sont morts à cause de tes conneries, gna gna gna. Et en même temps, on comprend qu'il y a une grosse magouille derrière qui est en train de se gérer, alors avec une espèce de trafiquant qui a sa propre armée de ninjas et qui en bisbille avec des mecs de la base militaire pour faire du trafic. Et tout ça va s'entremêler, en plus avec une histoire d'amour, une histoire d'amitié entre Steve James et Michael Dudikoff. Et tout ça qui va amener à ce que Dudikoff, Steve James et leurs potes mettent la pâtée aux trafiquants dans leur villa à la fin du film.
Il y a beaucoup de gros mots dans tout ça là, parce que des trucs qu'on comprend pas, tu vois, du Dikoff, ninja, qu'est-ce que c'est que tous ces trucs là, quoi. Il faut qu'on explique, Yannick, faut qu'on analyse. J'étais appelé pour ça,
tu vois, pour analyser
American Ninja. Déjà, American Ninja, faut savoir que on dit American Ninja, nous, mais en France ça s'appelle American Warrior.
Non,
alors attends, c'est le bordel, voilà, tu vois, c'est déjà ça commence mal.
C'est American Ninja, sauf qu'après American Ninja, après American Ninja, Fistenberg et Dudikoff ont fait un autre film dont j'ai oublié le nom.
Avenging Force.
Ouais, Avenging Force.
Qui n'était pas un American Ninja.
Excuse-moi. C'est celui-là, je crois, qu'ils ont appelé American Ninja.
Non.
Ils ont appelé American Warrior.
Tu vois que c'est le bordel.
Parce que American Ninja 2 qu'ils ont appelé American Warrior. Parce qu'ils avaient déjà utilisé le mot American Ninja pour un autre film avant.
Après, il y a eu American Warrior 3,
oui, voilà.
Qui était plus du tout avec Dudikoff, d'ailleurs.
C'est un bordel, c'était avec David Bradley, parce que Fistenberg est passé de Dudikoff à David Bradley.
Ouais.
Non, mais enfin, au moins, il a gagné en martialité au passage.
Oui, parce que c'est ça, il faut dire tous ces trucs-là. Alors, donc, Michael Dudikoff, c'est qui?
Alors, Michael Dudikoff, alors, déjà, je pense que la particularité d'American Ninja, même si c'est pas que lui, hein, c'est qu'il fait partie de cette série de films que vont développer la canon, qui est donc
développer.
Voilà.
Tu utilises des gros mots.
C'est quand
quoi.
Même de surfer sur les succès des années 70 du film martial, du film de kung-fu, de Bruce Lee. Il y a déjà eu des tentatives de mélange États-Unis, tout ça, mais les stars étaient souvent des stars asiatiques, puis on a eu Shoko Sugi, Jackie Chan, tout ce que tu veux. Puis là, la canon est arrivée en disant, non, mais nous, on a des champions du kick. Donc on va prendre exactement les mêmes personnages qu'il y a en Asie, mais on va les faire américains. Donc ça a donné Dudikoff, mais aussi après il y a eu Chuck Norris, t'as eu Van Damme et t'as eu tout ça. Non, American Ninja vient du fait. Alors là. Moi, j'ai lu ça à l'époque, mais la raison pour laquelle je ne le sais pas, que Menahem Golan, quand il a décidé, donc après le fait que les gens n'aient pas aimé que ce soit une meuf dans Ninja 3, de faire un American Ninja avec un mec, il a dit « Il me faut un mec qui ressemble à… »
James Dean.
À James Dean. En fait, quand tu regardes même à posteriori, tu te dis qu'American Ninja, c'est un peu le Drive de l'époque, mais…
Drive.
Oui, non, mais parce que c'était le même principe.
C'est à l'Est d'Eden avec des ninjas, quoi.
Tu regardes bien Michael Dudikoff, il ressemble au mec qui joue dans Drive, hein, comment il s'appelle déjà?
Alors toi, t'es complètement… Alors non, c'est même pas que t'arrives pas à te rappeler de Michael. Michael Dudikoff, tu te rappelles de son nom, mais Ryan Gosling,
je m'en rappelle pas, il m'intéresse pas. Mais ils ont la même tête. Ils ont exactement la même tête. Et en fait, Menahem Golan a juste dit à Sam Firstenberg, il me faut un mec qui ressemble à James Dean. Je sais pas pourquoi il voulait ça. Hein.
Et je pense qu'il voulait le All American Hero, quoi.
Ouais, il voulait sans doute, en tout cas, celui qui est taciturne dans le sens, il va pas beaucoup parler, il est mystérieux, il dégage quelque chose. Il fallait que ce soit un beau gosse. Donc,
ce qui est génial, c'est que dans la VF, en fait, si tu veux, il est très régulièrement surnommé le héros de mes deux couilles. Ou un truc comme ça, ce qui est pas très James Dean, quoi.
Ce qui est pas très James Dean.
Mais bon.
C'est... Mais par contre, il met.
En fait, la VF n'a pas eu le mémo.
Je crois que quand même, pendant les 15, facile, les 15 premières minutes d'American Ninja, il parle pas, hein. Il est vraiment dans cette logique de mystérieux.
Après, il dit trois mots, après, il parle plus pendant 15 minutes.
Et après,
plus,
il parle. Quoi, ouais. Bon, et ben, toujours est-il qu'ils ont fait un casting pour ça, et c'est là qu'ils ont trouvé Michael Dudikoff, qui n'avait jamais fait d'arts martiaux de sa vie.
Et ah putain, et ça se voit pas. quand même, hein.
Non, alors, je vais être honnête. Là, si on veut parler du niveau zéro de la chorégraphie martiale, tu m'excuses, mais il y a quand même des mecs qui sont censés savoir se battre dans American Ninja, en l'occurrence Steve James ouais. et le mec qui joue le ninja méchant, là, qui est ridicule, ouais. Avec sa moustache, là,
qui dirait son nom.
Concierge, en fait, mais bon, c'est le méchant ninja.
C'est quoi son truc? C'est Black Label Ninja? Non, c'est Black...
Je me rappelle.
Black Scorpion Ninja,
Mais franchement, bon, après les scènes de combat, elles sont quand même toutes pites. Mais quand tu les vois faire des arts martiaux, ouais, à part un ou deux moments, t'as pas le sentiment non plus que ni Steve James, ni ce mec-là qui connaissait les arts martiaux, soit genre 100 fois meilleur
non, mais
que,
en fait,
que Michael Dudikoff.
En fait, tu te retrouves pas avec des scènes où Steve James, il arrête des flèches à la main, tu vois.
Non, mais ça, c'est
parce que là, c'est ça le problème. En fait, Dudikoff, c'est ce qu'il fait, en fait, dans le film, c'est qu'en fait, dès qu'il y a quelqu'un qui envoie une flèche, tu sais, il l'arrête avec la main comme ça. Et
oui,
en fait,
wow, il a quelques petits moments de fight qu'il a répété à plusieurs reprises. D'ailleurs, il paraît qu'il avait... Il paraît qu'il flippait un petit peu face à Steve James.
Et en plus, apparemment, il pouvait pas s'encadrer.
Ouais, au départ, voilà, il pouvait pas s'encadrer, puis finalement, il s'est devenu copain comme dans le film.
Comme dans un body movie de base, quoi. Après, comme dans le film, j'ai envie de dire, ça c'est pareil, tu vois, c'est tellement écrit marabout bout de ficelle, si tu veux, que.
Ah, mais c'est. Alors, oui, alors tu vois, enfin, voilà, laissons parler notre tête. Si je laisse parler ma raison d'aujourd'hui, je regarde American Ninja et je peux être tout à fait atterré et navré à chaque seconde du film, la fois pour ce qu'il véhicule, pour la nullité de son script, comme pour la fabrication.
Non, mais évidemment, Yannick, mais.
C'est mon cousin qui fait ça le week-end chez lui, quoi. Mais ça, c'est ma tête. Le problème, là, c'est que moi, j'ai une affection particulière pour American Ninja. Bah,
raconte-nous comment tu l'as découvert.
Mais moi, j'ai découvert ça à l'époque où j'allais voir absolument tout, que je devenais un cinéphage patenté. J'allais dans le cinéma de mon petit bled. Et ça, tout ce qui
comment
sortait...
Comment il s'appelait
non, c'est quand
comment
même,
il s'appelait, ce cinéma
Le Central. Le Central à Colomiers. Ouais. Et ce qui était génial au Central à Colomiers, c'est qu'il sortait... Tout, mais enfin, tous les trucs qu'on regarde aujourd'hui en se disant dans notre tête, c'est du pauvre direct tout DVD tout pété, mais non, ça sortait en salle. Et moi, il y avait tout qui sortait de American Ninja, American Ninja 2, American Warrior. Tous, je les ai tous vus au cinéma et j'allais les mater en boucle. Et puis pour moi, c'était cette période.
C'est l'Amérique.
Ouais, c'était la période aussi des gros bras qui arrivaient, tout ça, tu vois. On avait tous notre. Enfin, moi, j'avais mon petit carnet où je mettais les photos de Schwarzenegger, Chuck Norris. Et tout le monde, j'étais fan de ça, tu vois. Bon, donc moi, quand j'ai revu American Ninja, ben voilà, j'ai eu un trip nostalgique. J'ai revu le truc, j'étais là, putain, quelle belle époque. En plus, c'était bien, quand j'allais au Central et que je voyais des mecs donner des coups de tatane avec des phrases débiles. Bon, ben voilà.
Bon, moi, je suis obligé de parler avec ma tête, Yannick.
Ah, mais c'est pareil, parce qu'en fait, non, c'est pas défendable, sinon.
Non, mais c'est pas ça, c'est qu'en fait, si tu veux, quand t'as l'avantage du recul, parce que c'est quand même un film qui a maintenant 37 ans.
Ouais.
Hein, mine de rien.
Ça nous rajeunit pas.
Voilà. Donc, le petit Yannick avait 12 ans, 13 ans quand il allait voir ça, quoi. Avec le recul, faut quand même un peu reconnaître que voilà,
c'est de la merde. C'est,
bah, non, ouais.
Mais je pense
ça,
que
on dit ça comme ça. T'as parlé de Chuck Norris. Alors, apparemment, oui. Chuck Norris était prévu. En fait, on lui avait proposé le projet.
Ah ouais.
Tu vois. Alors, on lui avait proposé le projet. On lui avait proposé, mais il avait dit non parce que en gros, il veut pas être masqué.
Oui, c'est
vois,
ça.
C'est ça. Alors déjà, t'as envie de lui dire.
Vois, bah, Chuck Norris,
alors,
film,
à mon avis, il y avait pas de scénar en fait quand on lui a proposé le truc parce que quand, enfin, sérieusement, Dudikoff, il est masqué 10 minutes à la fin.
Ouais, c'est tout.
Voilà. Alors c'est vrai que c'est pour les grosses scènes d'action, ce qui est quand même super pratique aussi. Hein, oui, mais rien. Parce que quand tu te dis, ah bah il est vachement bon, bah c'est peut-être pas lui. Ouais. Tu vois. Et en gros, ouais, Chuck Norris voulait pas le faire parce que, en fait, à mon avis, il aurait bouffé toute la barbe. Tu
mais
vois. En vrai, il y a que ça qui aurait disparu, quoi. Tu vois. On aurait vu que ses yeux. Mais bah c'était à l'époque, c'était évidemment que la canon, c'était soit Charles Bronson, soit Chuck Norris, en gros, les héros d'action. Et l'idée, justement, avec Dudikoff, c'était de créer un autre...
Une
autre star, quoi.
En attendant Van Damme.
Oui, parce que Van Damme, en fait, il est arrivé même...
En 80
3, ouais, 3 ans, 3 ans après, quand même. Hein. Donc Dudikoff a eu le temps de faire quelques films chez Canon. Il était même question qu'on le mette dans tous les gros projets. C'est-à-dire, dès que Canon achetait la licence de Superman, par exemple, ils ont fait Superman 4, ils ont dit, on va te mettre dedans, tu vois.
Ah ouais.
Probablement, d'ailleurs, à mon avis, pour le rôle du méchant, là, l'Atomic Man, là. Enfin, ça semblerait cohérent, parce que je pense pas que tu puisses remplacer Christopher Reeve, en tout cas à cette époque-là, quoi. On lui avait proposé, enfin, les mecs lui avaient dit, tu vas faire Spider-Man, le Spider-Man qui s'est jamais fait non plus, hein, chez Canon, tu vois. Et en fait, finalement, il s'est retrouvé à faire que des conneries comme ça, des trucs.
Oh, wow, il en a fait beaucoup derrière. Qui ont fini en direct tout DVD, mais il en a fait 3-4 qui ont eu sa petite période de gloire là à ce moment-là. Et puis voilà.
Dudikoff, je me rappelle qu'il était dans une comédie juste avant, de merde hein, aussi, mais une comédie un peu ah bah un truc en fait que je pense Tom Hanks a essayé de cacher dans sa carrière.
Ah, il y avait Tom Hanks.
Ah ouais, c'est un film qui s'appelle Le Palace en délire et c'était un truc de frat boys en fait, tu vois, qui foutent le bordel, tu vois, il y a notamment
mais ça c'était pas canon ça.
Ah non, pas du tout.
Ah, oui,
mais bon, ça aurait pu. Franchement, c'est un Porky's, tu vois le truc quoi.
Ouais.
Mais là, tu sais, le problème quand tu regardes d'ailleurs ce film là, c'est parce que parlons un peu cinéma d'action, tu vois, parlons un peu voilà. Enfin, ce film en fait, je sais pas si ça t'a pas fait ça, mais moi ça en fait en revoyant le film, je me suis dit, putain, mais c'est vraiment filmé comme un Police Academy, quoi. Tu vois, ouais, c'est vraiment tout.
J'allais dire, c'est filmé comme un épisode de l'agence touriste des
scénaristes. L'agence touriste, c'est gentil. L'agence touriste, c'est presque. Alors que tu vois, dans mon esprit. Sam Firstenberg, c'est le Kubrick de la canon, normalement. Tu vois ce que je veux dire? C'est le mec qui.
Non, c'était Albert Pune qui.
Oui, c'est vrai, mais ça, c'était après.
La canon, c'est pas Firstenberg. Mais non, c'est vrai que quand j'ai regardé le film, juste en termes de mise en scène, je me suis souvenu de deux trucs. C'est-à-dire, à un moment donné, au tout début du film, il se fait tirer dessus par des mecs, sans doute la première scène, je m'en rappelle plus exactement. Et je me suis dit, ah tiens, il y a un raccord qui marche. Là, j'ai vu une espèce de jump cut pour marquer une cascade qui se... Ça, c'est bien.
Bah, ils avaient des monteurs, quoi.
Je n'ai jamais retrouvé ça dans tout le reste du film. Et le deuxième où je me suis dit, ah, s'il avait eu des ninjas qui étaient pas juste les pieds nickelés dans ce film-là, ça aurait pu être un plan chouette. C'est à un moment donné, il se retrouve dans une espèce de hangar là où il se fight contre les ninjas. Tout est pété, tout est ralenti, tout va à deux à l'heure, tout est mal cadré. C'est dramatique. Mais t'as une espèce de plan où il rentre dans une espèce de, tu sais, de petite bicoque là avec des grandes vitres. Alors du coup, tu ne vois plus que son ombre chinoise. Ouais. Là, tu fais oulala, mise en scène, Firstenberg, tente un truc. Surtout... Mais alors, c'est génial, c'est que tu vois passer l'ombre et tu te dis va se passer un bidule, tu comprends le coup de je vais taper les mecs et puis on va les voir ressortir, sauf que l'ombre du ninja qui arrive derrière lui, le mec il est comme ça avec ça. Le plan il est ridicule, quoi. Donc tu vois le truc, tu dis bah putain, il y a des opportunités ratées, c'est bien dommage.
Oui, mais après je pense que ces passages là sont volontairement faits comme des tout petits moments de comédie. Alors peut-être pas pour les mêmes raisons qui t'ont fait rigoler à la fin, quoi. Mais je pense que pour le coup, c'est à peu près volontaire d'avoir un moment donné où ils reprennent, si tu veux, les plans à la Hunter the Dragon, quoi, ouais. à la Opération Dragon, où en fait, Bruce Lee faisait la même chose. Mais ouais. En fait, c'est pas une parodie, hein. Mais je pense qu'il y a vraiment la volonté de se dire, bon, bah là, en fait, on va un petit peu épicer le truc, on va faire ça un peu de manière marrante et tout ça, etc. etc. Parce que honnêtement, ouais. Tu vois, moi, tu veux qu'on parle comme un gamin de 5 ans, tu vois, quand qui redécouvre le film. Moi, dans mon souvenir, c'était ultra violent. Non, c'était ultra vénère, tu vois. Et en fait, si tu veux, il y avait des morts tout le temps, quoi, tu vois. Et force est de constater...
C'est pas tant que ça.
Non.
Oui.
Non, en fait, j'ai quand même vérifié, il y a un body count de 114 ou 117 morts. Et je fais, mais quand? Et effectivement, t'as
la scène
les 15
de la
dernières minutes, effectivement, ouais, bah, il déblaye 70 mitrailles d'un
tout le monde,
coup.
Mais...
Voilà. Et d'ailleurs, alors, je sais pas si on arrive déjà à ce point aussi rapidement vers la fin. Non, on va se réserver, mais il y a quand même la mort du méchant. Elle est quand même... Attends. Ah mais voilà, le mec il l'a revu la semaine dernière. Et
ouais, mais j'ai les neurones qui pètent là.
Un hélico.
Ah oui, avec voilà. Steve James, quoi.
Voilà, c'est ça.
Oui, bien sûr.
Mais ça, en fait, tu peux pas te gourer quand t'as un hélico, un bazooka.
Oui, voilà, c'est sûr. Non, mais c'est ça le truc. C'est-à-dire, moi, j'avais pas le souvenir. J'avais pas spécialement le souvenir d'un film ultra violent ou quoi que ce soit. Quand je repensais à cette époque où j'allais me taper tous ces films de la canon, j'avais plutôt le souvenir d'une formule qui, quelle que soit la réalisation et l'acteur, me faisait kiffer. C'est-à-dire que il y avait toujours du kung-fu, un truc comme ça, enfin un truc vaguement kung-fu. C'était sans kung-kai à niveau, et encore, son kung-kai c'était mieux chorégraphié. Mais j'avais toujours cette espèce de truc de, ce qui est cool, c'est que je sais qu'à la fin, le héros, il va venir avec plein de potes et des tanks et ils vont aller attaquer une villa. Ils vont tout péter. C'était la même chose dans là, Commando. Il y a même un film. Alors, attends, je vais te sortir un truc. Je suis même pas sûr du titre du film. Là, j'ai eu un flash d'un film comme ça. Je sais même pas si c'est la canon. Réalisé, attention, par Paul Michael Glaser, le Starsky de Starsky et Hutch. Film réalisé par lui qui s'appelait genre quelque chose comme Les 5 doigts de la main ou un truc comme ça. Et qui était l'histoire d'un héros, je ne me rappelle plus quel acteur, qui prenait 5 mecs de la rue, qui étaient perdus par la société, et qui allait les former pour en faire des mecs disciplinés. Et même dans ce film-là, à la fin, ça finissait avec tout le monde qui prenait des tanks et qui allait attaquer une villa à la fin, quoi.
Le flic de Beverly Hills, il y a plus.
Mais il faut que je retrouve ce film-là de Paul Michael Glaser, je m'en rappelle.
Parce que Les 5 doigts de la main, c'est un film d'Arcadie, hein.
Non, ça, c'est une phrase. Oui, je sais, mais c'était un truc comme ça. Je me rappelle que l'affiche du film, il y avait une main comme ça pour montrer, genre, les 5 persos, c'était Les 5 doigts de la main. Alors, le titre, je me plante peut-être, mais on peut regarder facilement après.
Oui, on regardera.
Voilà, vous regarderez plus tard.
Pas pour ce podcast-là, mais pour nous, en fait. Non, de toute façon, ouais, attaquer une villa, mais c'est vrai que c'est magique.
Non,
on fait plus ce genre de
truc. Quand t'es gamin à 12 ans, enfin, en fait, si tu veux, Moi j'ai compris un truc, je me suis fait un truc, une réflexion toute conne hein, quand j'ai regardé le film. C'était au-delà de sa qualité toute pourrie, au-delà de tout ce que tu veux. J'ai revu avec 40 ans d'écart. Il y a mon côté gamin qui avait kiffé ça à l'époque, donc bien sûr, ça me rendait beaucoup moins critique ou vénère en regardant le truc. Mais je l'ai vu 3-4 fois le film quand j'étais jeune, j'avais revu en vidéo et tout ça, enfin tu vois, on était fan de gros bras quoi. Je revois le film aujourd'hui, je m'emmerde pas.
Je m'emmerde un peu.
Peut-être, mais moi je te dis...
Pourtant ça dure 1h35.
Ouais, hein. Mais ça me manque. C'est-à-dire qu'il y a un parti pris dans ce truc-là que on ne fait plus aujourd'hui, qui est plus dans l'air du temps parce que il faut qu'on crée davantage d'atermoiement de personnages, c'est que les articulations narratives du récit, ils s'en battent les glaouis.
Sans blague.
Non mais ce que je veux dire c'est que
j'ai cru que t'allais nous faire une analyse.
Non, ce que je trouve génial c'est que tout est expédié en 10 secondes. C'est-à-dire à la deuxième scène du film où il a un peu sauvé la nana, ils sont déjà en train de se foutre à poil au bord d'une rivière. La nana, elle reluque le torse magnifique de Michael Dudikoff, et tu dis, bon, elle est convaincue en 10 secondes. Ils se flittent avec Steve James, ils se donnent 3 coups de latte. Le plan d'après, ils se font des bisous, torse nu sur la plage, genre des potes depuis 20 ans. Juste, c'est génial. Parce qu'en fait, le mec, il dit, bon, ils sont pas copains, faut qu'ils deviennent copains pour aller péter la gueule de la villa à la fin. Allez, on expédie ça. Et ce qu'il y a de top, c'est que, et je sais pourquoi peut-être j'allais le voir, c'est que ce truc-là te donnait...
Tu t'es dit, c'est ça la vie.
Non, mais ce truc-là te donnait, avec ce truc tout con, et ça me fait un peu...
Oui, mais tout con, mais parle dans la...
Ouais, pardon,
dans le micro,
ça me fait un peu penser à Van Damme, l'interview là, que j'ai vue récemment.
Dans son film.
Voilà, où aux États-Unis, bah, ils te disent ce truc tout con, c'est qu'il ne faut pas avoir plus d'ego et plus d'arrogance que le public, et que certains peuvent critiquer les projections test et tout ce que tu veux, ou en remontage qui ne correspondrait pas à l'auteur, mais que des fois, tu vas faire un remontage et tu vas avoir beaucoup plus de gens qui vont kiffer quelque chose, qu'on cautionne ou qu'on ne cautionne pas, c'est pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est que t'allais voir ces films, on te donnait ce que t'allais voir. C'est-à-dire, le scénar, il était là, pour être expédié en 10 minutes les enjeux, et à la fin c'est tu veux voir un mec qui fait du ninja et qui se bat contre un ninja, tu l'as. Alors évidemment c'est mal fait, c'est tout ce que tu veux, mais ça allait strictement à l'essentiel, et tu on te montait pas, tu vois, c'est pas Halloween Ends où tu vas voir Michael Myers et tu l'as pas. Donc alors, c'est pas possible.
Il va falloir que tu te remettes d'Halloween
Ends. Non, je vais pas m'en remettre parce que j'hallucine en fait qu'on ait pu faire des trucs comme ça. Mais bon.
Mais le truc aussi avec American Ninja, c'est que c'est aussi l'avantage de faire un podcast encore une fois 35 ans après. C'est-à-dire que le truc, c'est que oui, effectivement, je comprends ce que tu veux dire quand tu dis un truc comme ça. Mais en fait, il y a une raison. Alors après, à part, je pense que la nostalgie très déplacée qu'on pourrait avoir avec un film comme ça, quoi. Je t'avoue, en fait, en revoyant le film, n'a pas trop marché, hein, sur moi, hein, parce que bah, j'avais beau,
enfin, tu vois. Mais je veux dire qu'il a marché, enfin, j'ai pas été ému. j'ai pas été ému. Et deux, je me suis pas dit, putain, assure les scènes de combat.
Ah ouais, bah, quel gros.
C'est tout pourri.
C'est vrai que c'était des grands films quand même, merde.
J'en ai quand même en train de parler d'un truc où on savait plus ou moins, à 2 ans près déjà à l'époque, que c'était de la série Z, quoi.
Mais c'est-à-dire que, en fait, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, le truc que je voulais, pointer du doigt, c'est que, en fait, à part cette nostalgie déplacée, il y a littéralement aucune raison que ce film soit revu aujourd'hui par les gens. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, je vois même pas comment.
Ah non, mais à part les mecs de notre âge qui aimaient ce genre de cinoche-là et qui vont se marrer sur une plateforme VOD, aller pécho le vieux truc de 1984, non, évidemment, c'est indéfendable et non, ça n'a aucun intérêt en plus.
Voilà, donc là, on s'est mis à dos tous les fans de la Canon, si tu veux.
Non, parce que la Canon, c'est pareil. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut remettre les choses à leur place.
C'est pas le film le plus vénère de la Canon.
Non, c'est pas
justement,
c'est
ça le truc.
La Canon, elle fait partie de l'histoire.
C'est emblématique.
Ce que les gens aiment dans la notion de la Canon, tu sais, c'est comme pour tout, hein. C'est le biais cognitif de se donner une singularité. Donc c'est comme le mec qui va te que tu vas rencontrer dans une soirée et qui va te dire que en fait avec un espèce de côté dandy de mes couilles qu'il adore les tuches parce qu'il trouve qu'il y a du sens dans les tuches, il fait le malin, point barre. Donc tu vas voir,
ça t'est arrivé?
Oh, ça m'est déjà arrivé de rencontrer des non mais partout,
non mais sur les tuches.
Ouais, ça m'est déjà arrivé sur les tuches, ça m'est arrivé sur plein d'autres, sur des films de merde ou des trucs où tout le monde sait que c'est de la merde, et le mec, pour faire le malin, il va te dire « Non, mais c'est super, hein, voilà. » Enfin bon. Ah, ouais. Et je dis pas ça pour les mecs qui aiment la Canon. Je veux dire, la Canon, c'est une alternative. Donc, elle a une histoire hyper importante, parce que l'air de rien, elle a chié des tonnes de trucs qui étaient du cinoche, mais pour le coup, ultra populaire, qu'on allait voir au mépris des critiques, bah, parce qu'ils arrivaient à nailer aussi une certaine attente du public, à un moment donné. Ça a eu une histoire longue, ça a révélé, malgré tout, quelques stars en devenir. Donc, c'est une histoire du cinéma importante. Ça reste la Canon. C'est pas parce que c'est la Canon qu'on peut pas dire qu'ils produisaient de la merde, quoi.
Je pense que personne n'est dû, parce que je voulais dire ça. Par rapport à ça, c'est vraiment, je parle par rapport à la nostalgie, tu vois. Et je parle plus pour moi, parce que toi, t'es à fond dedans, là.
Moi, Canon,
Yannick Dahan qui avait des cheveux.
Dès qu'il y a le logo Canon, ben voilà, je retrouve, il y a une partie de ma jeunesse. Donc c'est pour ça que je suis pas objectif là-dessus, c'est sûr.
Objectivement,
c'est de la merde.
Voilà. Non, mais c'est même pas ça. C'est pas ce que je veux dire. C'est que même objectivement, si tu veux, dans le délire Canon, justement, je trouve que c'est finalement un film assez classique. C'est-à-dire que, encore une fois, Ninja 3, si tu veux, je veux dire, comment est-ce que tu peux pas faire? Parce qu'en fait, à un moment donné, c'est des singes, hein, qui réfléchissent comme ça, si tu veux. C'est-à-dire, on va mettre l'aérobic, l'exorciste et les ninjas en même temps, et tu fais, pourquoi?
C'est vrai qu'il a pas, et puis il a même pas ce côté, il a pas ce côté un peu malade que pouvait avoir certains concepts de la Canon, un peu barré. C'est un film sage, American Ninja.
C'est ça.
C'est un film sage.
Et moi, ça m'a déçu, parce que en fait, la Canon, pour moi, c'est surtout synonyme de super mauvais goût. Et donc, du coup,
Mais c'est un film quand même qui est sorti en 85, où t'as l'impression qu'il aurait pu être tourné en 1965, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est
ce que dit d'ailleurs Sam Fistersenberg. Il dit, c'est un de mes films préférés de ma filmo. En même temps, hein, ça, c'est compliqué de, voilà. Ouais, parce qu'il y a des valeurs d'amitié,
classique, le film classique du mec qui aimerait faire un film classique mais qui le fait mal, mais qui a l'intention en tout cas d'avoir ce truc là qui se déroule très simplement, avec des choses toutes simples, des personnages tout simples, et puis effectivement sans aucune idée folle, même en termes d'action ou quoi que ce soit. Donc,
mais alors, le truc, c'est qu'il faut peut-être qu'on explique un truc.
Ouais.
Pourquoi c'est un American Ninja? Parce que normalement, ça n'existait pas. Déjà, c'est pas possible. Tu vois, les ninjas n'en prennent pas.
Ouais, il y a un truc bizarre dans le background du film, là, puisqu'il a perdu la mémoire, ce qui est toujours très pratique.
Il a été élevé par un ninja.
Il a été élevé parce qu'il avait l'air d'être un soldat japonais. Rappelle-toi,
perdu dans,
est-ce qu'on sait
ne savait pas encore. En fait, le soldat japonais ne savait pas que la guerre était terminée.
Oui, voilà. Donc, on est quand même sur un mec qui savait pas que la guerre était terminée, qui a appris le ninjutsu à un jeune américain paumé dont on sait pas pourquoi, si je ne m'abuse, il était paumé dans la cambrousse.
À mon avis,
qui réapparaît magnifiquement quand même le japonais à la fin du film, parce que tu n'as pas fini ton entraînement, tu comprends? C'est énorme.
Et surtout, il avait pas fini son entraînement, et le mec, il l'a lâché à 6 ans.
Oui,
tu vois, comme ça, ou à 7 ans, tu vois. Donc, en fait, donc le mec, en fait, à l'âge de 7 ans, il savait déjà maraver tout le
monde. Moi, avec ce genre de phrase là, que j'adore dès la première scène avec le méchant ninja, mais ça me fait toujours penser à la phrase des paysans mexicains la première fois qu'ils voyaient Mario Van Peebles dans Solo, la fameuse.
Tu cites les grands classiques.
L'autre, il disait c'est un yakayo. Donc moi, j'ai toujours pris le yakayo, et là, dans celui-là, c'est magnifique. C'est tu vois, le méchant qui se retourne après que Dudikoff ait buté 2-3 mecs, et qui fait, mais qui est-il? Il connaît les secret de ninja. C'est superbe. Moi, ça me manque. Des dialogues comme ça me manquent. Voilà, qu'est-ce que je te dise.
D'accord. Et qu'est-ce que je voulais dire? On parle de la VF un peu ou pas?
Ah putain, la VF, elle est chaude. Hein.
Ah ouais?
Elle est chaude parce que déjà, la moitié du temps, elle est pas dans les labiales. Donc, c'est quand même énorme. Tu vois, t'as toujours une espèce de décalage. Puis, il y a carrément des moments où les mecs, ils parlent, tu les vois parler à l'écran et ils sont pas doublés. Alors, je sais pas, c'est peut-être un bug de la version qu'on a vue ou.
Je pense pas.
Mais toi, tu voulais parler de l'accent, là.
C'est surtout, il y a ce truc, en fait, où si tu veux, les mecs, ils lâchent les accents, ils les reprennent. Tu sais pas trop ce qui se passe et tout ça, etc., etc. Les mecs, ils ont des noms, hispaniques, tu vois.
Ouais.
Et en fait, il a un accent un peu russe. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est un peu.
Torcher ça à vitesse grand V.
Ouais, c'est surtout, en fait, les mecs, ils devaient recevoir les bobines dans le désordre ou je sais pas quoi.
Ouais, j'ai ça.
Toi, tu parles de. Ah ouais, en fait, si tu veux, elle le voit torse nu, elle tombe amoureuse, si tu veux. Mais à mon avis, il y a des scènes coupées dans ces films-là.
Ah, c'est possible.
Parce que c'est pas possible.
Après, ils se disent c'est trop long, c'est chiant, il faut du ninja.
Ça n'a ni queue ni tête. Non, mais vraiment.
Ah ouais, ça n'a ni queue ni tête.
Mais d'ailleurs, on en a suffisamment parlé sur Capture, hein, de ce truc, mais il y a un documentaire absolument incroyable. Moi, pour moi, le documentaire de cinéma de la décennie, quoi, qui est Electric Boogaloo. Mmh. The Untold Story of the Canon Film Production, je sais pas quoi. Mmh. Et en gros, si tu veux, bah, ils ont interviewé tous les gars dans ces trucs-là. Et les mecs racontent, en fait, les scénaristes disent « Moi, j'avais écrit un super scénario. » Alors bon, après, je ne sais pas si le super scénar d'American Ninja...
C'est l'histoire du cinéma en règle générale. Hein.
Bien sûr. Mais le truc, c'est que si tu veux, c'était tellement... En fait, les mecs les tournaient, ils les sortaient. Si tu veux, il y en avait... Enfin, tu vois, la Canon, il sortait 30 films par an à cette époque-là, quoi. Tu vois. Donc, et en gros, si tu veux, comment il s'appelle, Menahem Golan, surtout, puisque c'était lui l'artiste, en fait, le créatif, on va dire, du duo, en fait, pitchait les films à la volée. Ouais. Vois, alors là, il se trouve que celui-là, bon, c'est juste le délire, c'était vraiment, en fait, c'est comme si James Dean devenait un ninja. Voilà, quoi. Mais
tu sais, c'est le même délire que... C'est un peu le même délire que... avec des films au résultat quand même plus intéressant que l'industrie hongkongaise, que même la Film Workshop, que même plein de trucs qui sont passés dans les années 80.
Avec des gens peut-être un peu plus talentueux.
Avec des gens plus talentueux. Mais t'avais cette même logique de on partait tourner. On sait très bien que les scénarios Hong Kong ont longtemps été la dernière roue du carrosse. On tournait, on n'avait pas de script, on était quatre réalisateurs sur un même film. T'es pas capable de savoir qui l'a commencé, qui l'a terminé. Même tu regardes la film de Tsui-Hark, il est uncredited sur au moins une dizaine de films, donc ça c'est l'histoire du cinoche. Dis donc, c'est poussé peut-être plus à l'extrême encore avec la Canon, dont le but était vraiment de faire du pognon et vite, quoi. Et ils ont trouvé un filon, et c'était plutôt malin, parce que l'air de rien, ils ont quand même touché aussi une génération de fans de cinoche, moi, dont j'étais vraiment le public cible total à l'époque, quoi.
Parce que j'aurais aimé te connaître à cette époque-là où t'avais une petite tête d'ange et que t'allais voir ces films-là, quoi.
Mais oui, mais c'était bien. On était déjà, bon. Ces mecs-là, on surfait directement sur les gros succès de la fin des 70s, du début des années 80. Et ça s'est enchaîné naturellement. C'était de l'exploitation pure et simple, mais qui a trouvé le bon filon.
On parle d'un film, en fait, quand même, qui est sorti d'action, hein, donc, hein, qui est sorti la même année que Commando.
Tout à fait. Non, peut-être un an plus tard.
85.
En France, je sais pas.
Non, mais je te parle aux États-Unis, moi.
Ah ouais, peut-être.
Soyons internationaux. Ouais. Commando et Rambo 2.
Ouais, ben ouais.
C'est quand même moins bien.
C'est quand même beaucoup moins bien.
Voilà. Alors, bon, pour terminer, mon moment préféré du film.
Mon moment préféré du film. Moi, je crois quand même que c'est les scènes avec... Moi, c'est les scènes avec Steve James. Parce que Steve James est mauvais comme un cochon, il en fait des caisses. Donc, au début, ils sont tous hyper sérieux. Et puis, il y a une scène où il fait des blagues, là, à un moment donné, il commence à faire des blagues parce qu'il essaye d'être copain avec Dudikoff, tu vois. Et ça, c'est le genre de petit passage qui me fait marrer.
James qui nous a quittés il y a longtemps, déjà, maintenant, en 1980, tu savais pas?
Je me rappelle, j'ai pas dû suivre, non.
Tu t'es pas dit, tiens, ça fait longtemps que j'ai pas vu Steve James au cinéma? Bah non, il est mort. Désolé.
Non, il y a un truc qui m'a fait délirer quand même. Il y a un truc qui m'a fait délirer, c'est que tu vois, comment il s'appelle déjà? Tu vois Norton là.
Oui, Richard Norton, bah, il était dans les cascades.
Voilà, il faisait des cascadeurs. Ouais. Mais tu le vois à un moment donné se faire buter.
Il se fait dézinguer par un ninja.
C'était 10 secondes. Alors, je l'ai vu arriver là. J'ai fait ah putain, Richard Norton, vous auriez dû l'exploiter un peu mieux dans le film. Ça aurait pu être le deuxième American Ninja dans l'histoire. Ça aurait été rigolo, quoi.
Non, c'est lui qui a enfin, il fait partie des cascadeurs, quoi. Voilà. Donc Steve James, qui nous a quitté en 1993, cancer du pancréas.
Merde. Voilà. C'est triste.
putain, mais alors tu remarres pas comme un cochon.
Mais je remarre pas.
Le mec, il apprend ça 30 ans après,
non,
tu vois.
C'est...
Repense au petit Yannick Dahan qui aurait appris ça.
Steve James, qui devait être un pote de Menahem Golan ou je sais pas quoi, le nombre de films dans lesquels il a tourné.
Ouais, surtout Steve James, il était rigolo parce qu'il avait, un rôle dans I'm Gonna Get You Sucker, tu vois. Tu te rappelles de ça?
Non.
La parodie de Blaxploitation.
Je m'en rappelle.
Kenan Ivory Wayans, tu vois.
Ah ouais.
Où il joue dedans, puisqu'il avait besoin, en fait, d'un espèce de, tu vois, d'artiste martial black, tu vois, de la jeune, quoi. Et en fait, il peut être assez marrant, en fait.
Je
suis un peu triste, arrête de te marrer comme un cochon,
mais
avec le recul, remets-toi pour le coup, remets-toi dans l'époque où t'aurais pu découvrir ça et te dire ah merde.
Ah non, mais à l'époque, je trouvais génial. Bon, bref, je crois qu'on a fait le tour.
On a tout dit. Faut quand même reparler
de
ce moment absolument incroyable, moi, parce qu'on l'a un peu survolé trop rapidement. Le moment, en fait, où donc il s'accroche à l'hélico pour sortir la meuf de l'hélico, si tu veux, sauter sur le toit
au moment où
Steve James qui balance un coup de roquette et tu vois l'hélico qui est une maquette absolument dégueulasse, tu vois, qui explose, et c'est quand même incroyable. Moi, je trouve ça formidable de tuer un méchant comme ça.
Bah, c'était la grande époque.
Et d'ailleurs,
tous les films, t'avais ça, le lance-roquette qui détruit l'hélicoptère. Ouais, ça partout.
Je me suis demandé quand même un truc, en fait. Je me suis dit, est-ce que ce passage n'a pas inspiré quelques jeux vidéo de ninja des années 80, tu vois. Parce que moi, Shinobi, si tu veux, qui est un jeu vidéo que j'adore, en fait, dans lequel j'ai mis je ne sais pas combien de pièces, tu vois, de 10 ouais. balles et tout.
Moi, c'était Commando, tu vois. Ah ouais. On a chacun.
Ah ouais, non, moi, c'était Shinobi, c'était ouf. Et en fait, tu vois, bah, il se tapait contre un hélico. Et tu te dis, mais c'est pas cohérent, ça. C'est pas normal, un ninja contre un hélico, tu vois. Il y a un truc qui va pas, quoi. Tu vois. Je sais que l'hélico, c'est quand même le boss préféré des jeux vidéo, mais quand même, si tu veux, là, c'est.
Non,
et là, je me suis dit, ah, en revoyant le film, je me suis dit, ça se trouve, c'est la source d'inspiration.
Il y a plein de trucs, c'est. Enfin, tout ce que le... En fait. Je pense qu'on se nourrit de trucs qui se transforment, qu'on mesure pas. Je veux dire, des gens qui ont grandi, qui ont le même âge que nous aujourd'hui, qui ont grandi avec tout ça, qui ont bouffé tous ces films, je veux dire, qui se retrouvent à faire autre chose, je sais pas moi, du jeu vidéo, des conneries, bah inconsciemment, sans même se rappeler d'American oui. Ninja, ils vont être foutre, ah, ce serait bien que le mec il explose un hélicoptère. Bon, ça fait partie de ce qu'on traîne avec soi au fil des ans. Donc moi je suis sûr, tu vois, quand j'écris des scénars, des fois, je dois aller reproduire un vrai truc que j'ai vu dans un film pété du début des années 80 sans m'en rendre compte, quoi. Tu vois, bah, c'est normal ça.
Ouais.
Je dis pas que c'est forcément glorieux. Je dis pas qu'on aurait pas eu peut-être une éducation un peu plus élevée, ça aurait été mieux, mais voilà.
Bon, écoute, je pense que tu l'as dit il y a 5 minutes, il faut qu'on rende l'antenne.
C'est ça.
Voilà, parce que
c'est déjà trop long.
T'en as trop dévoilé.
C'est déjà
tu vois,
trop long.
Et on en a trop fait sur American Ninja.
Voilà.
Voilà. Bon, merci Yannick.
Mais y a pas de soucis.
Merci cool. Alain, merci à la technique, en fait, qui avait son petit micro. Donc, dis au revoir aux gens, Alain.
Salut.
Voilà, pour me souffler les mots, mais finalement, on n'en avait pas besoin.
Tout à fait.
Tu vois, on était quand même très...
prolixe sur le sujet.
Ouais, voilà, Michael Dudikoff, on savait...
On n'a pas dit grand-chose, mais bon...
C'est vrai, on n'a pas dit grand-chose, mais en même temps, est-ce que American Ninja dit beaucoup de choses?
Non.
Tu vois, c'est sur la vie,
et le personnage étant multiple, il en dit encore moins, ça c'est sûr.
Voilà.
Donc, sur
merci,
ce...
Voilà, sur ce, voilà. Merci à tous, en fait, de nous avoir écoutés, et on se retrouve à la prochaine avec un prochain film. Voilà, peut-être Ninja Blanc, peut-être American Warrior 3, peut-être... Non, il n'y a même pas d'American Warrior 3. American
non,
Ninja
mais si
3.
On fait Michael Dudikoff, à un moment donné, va falloir qu'on fasse David Bradley. Il va falloir qu'on fasse...
si on en arrive là.
Il va falloir qu'on fasse du Richard Norton, du Cynthia Rothrock. Il y a
arrête,
plein de trucs
que
à
tu
faire.
Es en train de donner des idées aux gens qui
les,
nous
les Lucky Star. Non, mais genre, on parle de stéroïdes. Là, c'est tout un pan quand même de l'histoire des...
Ouais, mais Lucky Star, c'est autre chose.
Tu vois,
Cynthia Rothrock, c'est autre chose. T'as raison, c'est vrai, on fera ça. Merci Yannick.
Merci. Et Thomas Ian Griffith, qui ne faisait pas que le vampire méchant dans le film de Carpenter.
Bah évidemment.
Qui faisait quand même des sous-films d'action tout pété avant, qui sont intéressants.
Ça, c'est les années 90.
Ouais.
Je vois qu'il a dû commencer fin des années.
T'as pas dit que tu voulais rendre l'antenne, toi ?
Si.
Pardon. Pose le micro.
Ça, je pourrais en parler des heures, des films.
Ouais, mais pose le micro. Voilà. Allez, merci à tous. Salut.